Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors, ce matin-là, notre ami Pedro va venir nous chercher pour nous conduire à la ville, près du centre-ville. Alors là, il faut se taper une heure de déplacement. C'est ce qui est lourd. Chaque jour, c'est une lourdeur que cette longueur dans les déplacements. Chaque fois que nous nous déplaçons, il faut compter le temps du trafic qui est abondant. Ça vient donner une réponse au problème de pollution dont je vous ai parlé précédemment. Nous allons faire la visite d'un musée appartenant à la communauté juive. Nous déambulons dans une rue, voilà que nous découvrons un musée d'une communauté juive. C'est simple, c'est bien. Alors ça me rappelle tant de fois où j'ai visité dans d'autres lieux, même en Terre Sainte, les musées juifs. Alors ça nous permet aussi de considérer que dans cette ville, il y a une communauté juive qui est importante à Mexico. C'est de prendre le pouls de la ville, de ses habitants. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a personne qui soit seul, en tout cas dehors. Il y a toujours quelqu'un avec quelqu'un. Tellement il y a du monde. Ça me rappelle un souvenir en Égypte. Il y avait tellement de monde au Caire. Je me disais, c'est pas possible, il y a personne qui souffre de solitude ici. C'est impossible. Personne souffre d'isolement. Bon, vous allez me dire, ben oui, il peut peut-être en avoir. Mais ce n'est pas la vie normale dans une ville comme le Caire, dans une ville comme Mexico. Les gens sont proches les uns des autres. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui parle à quelqu'un. Alors c'est phénoménal de voir cette réalité. Oui, on peut voir ici et là parfois un mendiant qui est seul, quelqu'un qui demande la charité, mais ce n'est pas habituel. Il y a du monde. Donc, il y a quelqu'un pour quelqu'un. Nous revoyons certains lieux visités, la place de la cathédrale, et là, on voit vraiment les gens qui travaillent. Ce sont les préparatifs de la venue du pape François. Ça se voit, ça se sent. Le pape François va arriver dans quelques jours. Et on voit les gens qui montent les estrades, évidemment, ces choses-là, les grandes banderoles. On voit l'effigie du pape François partout. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est très touchant, la manière dont les Mexicains vont accueillir le pape et le rappellent par ses affiches. Mais il y a aussi des résistances. Ça rappelle Jésus. Dans l'Évangile, lorsqu'il sort et se déplace, les démons crient « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» C'est ce que Jésus entendra dans la synagogue à Capharnaüm. Nous entrons dans un édifice, c'est le palais des Beaux-Arts. Alors on se rend compte que l'art est présent dans la culture mexicaine. C'est un art qui est beau, c'est un art qui est coloré. C'est quelque chose de très beau. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », paroles énigmatiques pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. L'œil de Petit-Jean avait soudainement inquiété son cœur. Depuis 3 jours déjà, la montagne pointue n'avait pas montré son étoile. Quelque chose d'anormal se passait là-haut. Laissant ses bêtes, Petit-Jean était parti à l'aube, en direction de la montagne pointue. Ce chemin, il le connaissait par cœur. Il se rappela sa rude montée, son arc et ses flèches, la rivière et son visage, les poules, la grotte. Le brouillard devant lui estompait l'impossible, atteignant lui aussi le sommet de la montagne pointue. Dans quelle nuée allait-il trouver la chaumière et les poules tapageuses? Vers la fin du jour, Petit-Jean atteignit les hauteurs de la montagne pointue. Plus il s'approchait de la petite chaumière, plus la densité du brouillard l'emprisonnait. Maintenant, c'était son cœur qui inquiétait ses yeux. Puis il se mit à respirer difficilement. Une épaisse fumée l'envahissait. Il se mit à étouffer, à tousser. « Qu'est-ce qui brûle ? » dit-il. Avec difficulté, suffoquant, il arriva péniblement à la chaumière. Mais il n'arrivait pas à bien la distinguer. Une épaisse fumée noire envahissait le lieu. Il eut alors un sentiment d'effroi et se mit à courir en toussant, en criant. « C'est moi ! C'est moi ! Où es-tu ? Où es-tu ? » Nerveuses, les poules se mirent à caqueter. À qui mieux mieux ? Et vinrent trouver Petit-Jean dans sa course folle. Elles n'avaient plus d'enclos. Le vent l'avait fait voler en éclats et les avait rendues libres. Petit-Jean finit par se trouver sur le seuil de la chaumière, qui n'avait plus de porte. Elle était toute détruite et fumante. Tout était dévasté. Avec des accents de détresse, il se mit à crier plus fort, enjambant tant bien que mal les poutres tombées. « Mais où es-tu ? C'est moi, Petit-Jean !» criait-il. Mais ses appels restaient sans réponse. Petit-Jean étouffait au milieu des décombres. Il se mit à ratisser toutes les pièces de la chaumière en hurlant sa peur. Il ne trouvait rien. Suffoquant, il sortit et se mit à faire le tour de la chaumière plusieurs fois, comme un homme insensé, criant toujours. « Non ! Non ! Tu n'es pas morte ! Non ! Dis-moi que tu vis ! Dis-moi que tu m'attendais !» Petit-Jean ne s'appartenait plus. Dans son désespoir, un éclair traversa son esprit. Il se souvint tout d'un coup d'une parole de la dame de la montagne. « Les poules n'ont plus d'eau, Petit-Jean. » Vite, il se précipita vers les ruines fumantes et parvint péniblement à dégager un coin du plancher de la chaumière. Ouvrant la trappe qui menait aux profondeurs, il entendit une voix presque éteinte. « J'ai soif. » Elle était donc là, sous la maison, près du puits. Comme s'il avait trouvé un trésor, Petit-Jean hurla, mêlant ses larmes à sa joie. « Les poules n'ont plus d'eau !» Le jour avait complètement basculé dans la nuit. Près du puits, dans cet étrange refuge, ils étaient ensemble, la dame de la montagne et Jean. Petit-Jean ne parvenait pas à trouver ces petits bouts de chandelle qui habituellement donnaient leur clarté près du puits. Tout était noir sous les décombres. Espérant que l'aurore pourrait les guider pour sortir de cet enfer, il se résigna à veiller ainsi toute la nuit près de la dame de la montagne. De temps en temps, celle-ci gémissait et prononçait d'étranges paroles. Petit-Jean ne connaissait pas ces mots qui lui semblaient sans lien les uns avec les autres. Elle disait « Nuit noire, étoile, horizon, fil d'or, l'astre sort. » Chaque fois qu'il disait ces paroles, il la rassurait. Il avait soif aussi, et il n'avait pu se rendre au puits, car tout risquait de s'écrouler. Parfois, il redisait « J'ai soif ». Finalement, il se décida. Prenant le seau endommagé, il se rendit avec peine au puits, jeta le seau dans le puits, puis remonta au grand soulagement de la dame de la montagne, qui avait ajouté « Et les poules ?» Les poules, elles boiront plus tard. Les poules, plus tard, avait-elle repris après lui. Petit-Jean réalisait la gravité de l'événement. Qu'allait-il se passer? Le froid de la nuit s'abattit sur eux. La dame de la montagne grelottait. Petit Jean enleva sa chemise pour la couvrir et se mit à grelotter à son tour. Plusieurs fois, elle redit ces paroles mystérieuses, comme un refrain appris par cœur. Petit Jean se mit aussi à les dire en lui-même. Nuit noire, morte l'étoile, horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor, rapide, l'astre sort. La dame de la montagne scandait ces groupes de mots comme de courtes phrases cachant leurs secrets. Elle se mit à les redire en les détachant. Nuit noire, morte l'étoile. Cette nuit-là, Petit Jean ne dormit pas. Transi de froid, près de la dame de la montagne, il avait appris par cœur d'étranges paroles. C'était Les Carnets du Soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.